France Musique.
Partons pour Boston où nous retrouvons Antoine Péqueur. Antoine Péqueur qui va nous parler, 7 ans après, de la crise des subprimes, de la situation économique des orchestres américains. Bonjour Antoine.
Bonjour Vincent, et oui, c'est une crise, vous le savez, qui a engendré d'immenses dégâts dans le paysage culturel et notamment musical. Alors, des orchestres, il faut bien le dire, ont mis la clé sous la porte suite à la crise des subprimes. Je pense à l'orchestre d'Honolulu, à Hawaï ou encore à l'orchestre d'Albuquerque. Mais même des formations plus prestigieuses, prenez l'exemple de l'orchestre de Philadelphie, qui fait partie des orchestres les plus célèbres des États-Unis, se sont placés en faillite, ils se sont mis sous la protection de la loi américaine des faillites. Alors, cela a bien sûr engendré des mesures strictes pour les salariés des orchestres, des réductions des effectifs instrumentaux, des baisses de salaire, parfois conséquentes, notamment pour les directeurs musicaux qui, il faut bien le dire, avaient parfois des cachets un petit peu indécents, et aussi un gel des embauches dans un grand nombre d'orchestres. Les musiciens ont réagi à cela. Il y a eu des grèves de musiciens, notamment à Détroit ou à Cleveland, dans ces villes. Alors une fois de plus, qu'est-ce qu'on voit à travers cette crise des subprimes et les conséquences sur la vie musicale? C'est qu'il y a deux Amériques. Il y a les orchestres dans les grandes villes, qui eux s'en sortent, comme à New York, Los Angeles, San Francisco. Et puis, il y a les villes moyennes, Détroit, Cleveland, et là, les orchestres sont dans une vraie difficulté. La seule bonne nouvelle, finalement, c'est que, à travers cette crise, les orchestres ont dû se réinventer et notamment développer leurs actions sociales à destination des communautés les plus pauvres, comme c'est le cas à l'orchestre de Boston, là où je me trouve, où l'orchestre de Boston donne des concerts de musique de chambre dans les églises, dans les centres sociaux, dans les quartiers les plus pauvres de la ville.
Alors, quel est aujourd'hui le financement de l'orchestre, Antoine?
Alors, j'ai enquêté. Pour vous, Vincent, et pour tous les auditeurs, le budget de l'Orchestre de Boston, c'est l'un des budgets les plus importants au monde pour un orchestre symphonique, 90 millions de dollars. L'Orchestre de Paris, à titre d'exemple, c'est 20 millions d'euros. Alors 90 millions de dollars de budget qui se répartit, et c'est là que c'est très intéressant parce que ça n'a rien à voir avec le modèle français ni le modèle européen, c'est que la moitié de ce budget provient de la vente de billets. Il faut savoir que l'Orchestre de Boston donne chaque programme 3 fois 3 concerts, limite le nombre de répétitions. Donc la moitié du budget, c'est la vente de billets. L'autre moitié, eh ben, c'est les fonds privés, avec notamment beaucoup de mécènes individuels. Alors, comment les mécènes individuels agissent sur la vie de l'orchestre? Alors, par exemple, Vincent, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter à l'Orchestre de Boston un poste de musicien. Vous pouvez acheter le poste de hautbois solo, de contrebasson ou de percussionniste. Ça vous coûtera quand même 3 millions de dollars. Et encore, ce n'est pas les postes les plus élevés. Si vous voulez vous acheter le poste de directeur musical de l'orchestre, c'est 10 millions de dollars. Et cela, ça vous permet d'avoir votre nom, Vincent Josse, en dessous, par exemple, du titre de violon solo ou du violoncelle, même un violoncelle de rang. Et il y a marqué votre nom dans les brochures de communication, dans tous les documents de concert. Alors, les entreprises, de leur côté, par rapport aux individuels, ils soutiennent davantage les projets spécifiques, c'est-à-dire les tournées, les enregistrements ou les actions sociales. Alors, vous allez me dire, mais les fonds publics là-dedans? Un montant qui va paraître ridicule, l'État, le seul montant public, c'est 75 000 dollars. Alors regardez, 90 millions de dollars, effectivement, ça fait très peu. Même l'Orchestre de Boston explique qu'en fait, eux, ils doivent payer une taxe à la ville pour pouvoir utiliser la salle, la magnifique salle, le Symphony Hall de Boston. Mais en fait, pour être exact, il faut bien dire qu'il y a une aide de l'État dans cette histoire, parce qu'il y a de l'aide de l'État indirecte avec toutes les déductions fiscales dont peuvent bénéficier les philanthropes. Une aide de l'État indirecte qui peut-être pourrait changer dans les mois, dans les années qui viennent, avec l'élection présidentielle américaine. Vous le savez, on en a parlé hier, Bernie Sanders souhaite changer les choses, il souhaite investir davantage sur le terrain culturel, mettre l'État à contribution. Alors, est-ce que ça peut fonctionner? Mark Volpe, le directeur général de l'Orchestre de Boston, que j'ai interrogé à ce sujet, me dit bien sûr la proposition de Bernie Sanders est séduisante, mais elle ne pourra pas fonctionner car aujourd'hui, il y a une paralysie institutionnelle aux États-Unis avec le rôle prépondérant joué par le Congrès américain.
Merci Antoine Péqueur. Vous voyez, j'hésite aujourd'hui entre l'achat d'un poste de directeur musical à Boston et l'achat d'une photo à 400 000 dollars. Rentrez bien, rentrez vite. On vous retrouve lundi avec nous en studio, Antoine Péqueur. Il est 7h38. L'horreur hier à Beyrouth, par deux fois deux hommes ont fait détonner leur ceinture explosive dans des lieux vraiment très fréquentés. Ils ont provoqué la mort de 41 personnes. Dernier bilan ce matin, l'État islamique a revendiqué ce double attentat. Le groupe djihadiste sunnite a frappé un fief du Hezbollah chiite au sud de Beyrouth. Les deux organisations se font la guerre en Syrie voisine. C'est aujourd'hui au Liban une journée de deuil national.
Thank you.
Très belle musique Beyrouth d'Ibrahim Malouf. France Musique, 7h41.